Courant Porteur vous emmène au cœur de la recherche scientifique. Dans cette saison 2, je suis allée à la rencontre des chercheuses et chercheurs qui travaillent sur la recyclabilité des polymères. Cette thématique est un enjeu technique, politique et industriel majeur aujourd'hui, compte tenu des directives européennes de recycler 50% des plastiques d'ici 2025. Comment la recherche publique aide les entreprises, les institutions, face à la transition énergétique, numérique et environnementale? Je suis Laure Caruso et je serai votre fil conducteur tout au long des épisodes. Sur les 6 à 8 millions de bouteilles plastiques qu'on achète chaque année en France, certaines sont recyclées pour en faire des polaires, d'autres des coussins ou des stylos, mais aussi en bouteilles. Et au vu des quantités utilisées, le recyclage des plastiques, c'est une priorité majeure pour les États européens, dont la France, qui s'est fixée pour objectif de recycler 100% des plastiques d'ici 2025. Alors comment en pratique améliorer et augmenter la recyclabilité des bouteilles plastiques? Et comment ces problématiques sont traitées par les chercheurs et les industriels? C'est dans ce contexte que je suis allée interroger Lauriane Viora, doctorante à Mines Paris PSL, sur le site de Sophia Antipolis. Lauriane Viora cherche à caractériser l'influence de certains contaminants dans des bouteilles en plastique recyclé, mais pas que, comme vous allez l'entendre. Nous avons aussi parlé de paillettes, de bouteilles qui explosent et de l'importance de continuer à faire le tri. Bonne écoute! Bonjour Lauriane, est-ce que tu peux commencer par te présenter?
Bonjour Laure. Alors, donc Lauriane Viora, je suis ingénieure chimiste de formation et actuellement j'effectue une thèse aux mines de Paris, sur le site de Sophia Antipolis, sur le thème du recyclage des bouteilles et surtout sur la formabilité de ces bouteilles à partir de PET recyclés mécaniquement.
Au CMF, qui est
le Centre de mise en forme des matériaux.
Très bien. Donc dans cet épisode, on va s'intéresser à tes travaux de thèse sur l'amélioration de la fabrication des bouteilles à partir de bouteilles en plastique. Avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux me décrire les grandes étapes du parcours que suit actuellement une bouteille qui est prête à être recyclée, quand on la met dans le bac jaune, par exemple?
Donc effectivement, après cette étape de tri très importante, eh bien, la bouteille va être récupérée au milieu des autres emballages, en passant sur un tapis roulant. Elle va subir un premier tri, passer du côté des bouteilles en plastique. Ensuite, elles vont être broyées pour obtenir des paillettes, environ 1 cm sur 1 cm. Et ces paillettes, ensuite, vont subir un lavage qui va permettre également de les séparer des autres constituants de la bouteille. Parce que vous savez que dans une bouteille, eh bien, il y a aussi tout ce qui est le système de fermeture, qui est un autre polymère, et l'étiquette notamment, et également les colles qui permettent à l'étiquette d'être fixée. Donc ce tri densimétrique et ce lavage permet de séparer notamment certains des éléments. Ensuite, ces paillettes vont être séchées, également retriées, pour enlever quelques impuretés qui vont pouvoir, qui seront restées potentiellement. Et ensuite, ces paillettes bien séchées, c'est important parce que le PET se dégrade, peut se dégrader avec des conditions quand il y a encore de l'eau à l'intérieur. Et ensuite, ces paillettes séchées vont être refondues pour obtenir des granulés qui sont la première étape pour fabriquer à nouveau des objets, quels qu'ils soient, la bouteille comprise.
Alors tu l'as mentionné, tu as dit PET pour polyéthylène terephthalate, qui est du coup un des polymères utilisés dans les bouteilles et aussi dans les emballages alimentaires. Et pour l'instant, la collecte et le recyclage de ces bouteilles restent faibles. Seulement 7% sont recyclés de bouteille à bouteille. Pourquoi est-ce que c'est si peu, finalement?
Alors, il y a deux explications. Tout d'abord, une explication politique et financière, parce que toutes ces étapes nécessitent quand même de l'énergie. Donc, ça demande un certain coût. Donc, actuellement, Le PET recyclé est quand même plus cher que le PET vierge, donc ça nécessite d'avoir des politiques publiques plus importantes dans ce domaine. Et ensuite, au niveau scientifique, parce que malheureusement, on a quand même des pertes de propriétés, et notamment parce que on va avoir des bouteilles qui vont être assez différentes en fait en entrée. Quand on fabrique une bouteille à partir de PET vierge, on sait exactement la molécule qu'on a mise à l'intérieur, les additifs également. Là, on a vraiment un mélange de bouteilles, donc de bouteilles avec des caractéristiques différentes, ce qui donne un PET qui va être différent. Et également, on a des phénomènes de dégradation lors du recyclage, et également des impuretés, des contaminants. Moi, c'est sur cette partie-là que je travaille notamment.
Alors justement, on va y venir. Et en fait, par rapport à ce que tu disais là, en 2019, il y a la Single-Use Plastic qui a été approuvée par le Parlement européen, qui est une directive qui a pour objectif, d'une part, d'améliorer la collecte des bouteilles plastiques, mais aussi d'incorporer 25% de plastique recyclé dans les bouteilles PET à partir de 2025. Et comme tu disais tout à l'heure, les propriétés se dégradent au fil des recyclages, même si on sait aujourd'hui comment recycler ces bouteilles de manière mécanique. Les industriels ont besoin de caractériser cette baisse de propriétés, et c'est là où ton travail intervient. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Alors justement, les industriels, effectivement, vont rencontrer certaines difficultés. Alors c'est ça qui est assez particulier, c'est que ces difficultés ne sont pas rencontrées forcément sur tous les gisements qu'on peut trouver dans les PET recyclés. Et donc le but notamment de ma thèse, c'est de voir quelles caractéristiques vont expliquer les différences de comportement qu'on aura lorsqu'on voudra fabriquer une nouvelle bouteille. Parce que lorsqu'on veut fabriquer une nouvelle bouteille, il y a plusieurs étapes. Donc on va commencer par injecter les granulés dont j'ai parlé précédemment pour obtenir un objet qui ressemble un peu à une éprouvette qui va être ensuite réchauffée pour être soufflée et obtenir la bouteille finale.
D'accord.
Donc on peut avoir de la dégradation lorsqu'on va avoir un petit peu cette injection de ce qu'on appelle la préforme, donc cette éprouvette. Et ensuite, dans les procédés de soufflage, il peut y avoir, en fait, des explosions. Et donc, le but, c'est de savoir si les contaminants, donc moi, c'est la partie que j'étudie, si ces contaminants vont avoir une influence sur le soufflage.
Si c'est à cause de ça qu'il y a ces explosions au niveau du soufflage. Et alors, comment est-ce que tu as caractérisé, du coup, ces contaminants ? Quels étaient, en fait, les procédés que tu as mis en place pour étudier ça ?
Pour caractériser les contaminants, il y a eu plusieurs démarches qui ont été faites. Notamment, la première, c'est de savoir leur nature. Donc, de savoir s'il y a des hétéroéléments dans le PET. Donc, le PET, c'est un polyester, donc composé de carbone, hydrogène et oxygène. Donc, si on avait des composés tels que le chlore, l'azote, c'est que c'est des impuretés et qui peuvent potentiellement avoir des effets. On rencontre dans la littérature beaucoup de choses sur des effets, notamment, par exemple, si c'est du PVC, il va y avoir donc de l'HCl qui va être produit et beaucoup de dégradation à ce niveau-là. Donc, ce qu'on voulait savoir, c'était effectivement s'il y avait ces contaminants de nature différente qui pouvaient endommager un peu plus. Un autre aspect, c'est leur nombre. Parce que on peut supposer que effectivement, si on a plus d'explosions, ben c'est qu'on a plus de contaminants qui provoquent plus d'explosions.
Est-ce que c'est le cas ?
Alors non. A priori, effectivement, dans ma thèse, ce qu'on observe, c'est effectivement des différences de propriétés quand même entre un vierge et un recyclé. Mais ce sont des différences de comportement plutôt sur l'aspect besoin de moins chauffer, en fait, pour déformer, parce que les PET recyclés vont absorber plus. Donc c'est plutôt des aspects comme ça. Au final, moi, je n'ai pas observé d'explosion, alors que j'ai des contaminants, et plus de contaminants, effectivement, dans mes recyclés que dans mes vierges. Donc c'est pas ça qui tout à expliquer des explosions. Et voilà, donc effectivement, les contaminants peuvent par contre expliquer pourquoi ça absorbe plus.
D'accord, mais donc tu as écarté justement une des possibilités, enfin une des causes de ces explosions. Donc c'est à chercher ailleurs en fait.
C'est ça.
À quoi est-ce que ça ressemble en fait ces contaminants ? C'est quoi le... Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Alors les contaminants, moi, que j'étudie, sont ceux qu'on voit effectivement à l'œil nu dans les bouteilles.
C'est des petits points noirs, c'est ça ?
C'est ça, c'est des petits points noirs de différentes formes aussi. Alors, ils peuvent être pas forcément noirs, j'en ai observé des marrons. Et voilà. Et après, au niveau microscopique, c'est des formes... ça peut aller du rectangle à l'octaèdre, voilà, il n'y a pas forcément...
Et ça disparaît quand même, dans les étapes après, où ça reste, puisque après, quand une bouteille est finie d'être recyclée, il n'y a plus ces petits points noirs.
C'est dans ma matière recyclée, c'est sur la bouteille recyclée que je les observe.
Okay.
Mais ce n'est pas des points qui fragilisent la bouteille, c'est ça ce que je veux.
C'est ça qui est important, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres propriétés que tu as caractérisées qui peuvent être utiles en fait, pour améliorer le procédé de recyclage ?
Alors, ce qu'on a observé également, assez classique hein, sur les recyclés, c'est que la gamme de formabilité pour souffler le PET recyclé est plus faible. C'est-à-dire que pour pouvoir faire l'étape de soufflage, on doit chauffer. Mmh. On doit chauffer au-delà d'une certaine température. Donc pour les PET recyclés, c'est légèrement supérieur à celle d'un PET vierge. Et on ne doit pas dépasser une certaine température. Sinon, on obtient ce qu'on appelle on a une cristallisation statique. Et donc un PET qui n'est plus transparent. Et qui a des propriétés mécaniques qui peuvent être compliquées. En tout cas, pour déformer, ça sera compliqué.
Et juste, qu'est-ce que ça induit que ce soit moins transparent ?
Ça, c'est effectivement après des problématiques marketing. Donc, c'est pas forcément scientifique, mais ce que, a priori, attend un consommateur pour une bouteille d'eau, c'est qu'elle soit transparente. De savoir ce qu'il y a dedans. Pour l'eau notamment, la caractéristique de l'eau, c'est la transparence. Donc avoir une bouteille opaque pour contenir de l'eau, c'est comme...
S'assurer de ce qu'on boit.
Voilà, c'est
okay,
ça.
D'accord. Donc c'est pour le cahier des charges, on va dire, des industriels.
Tout à fait.
D'accord.
Et la coloration aussi qu'on peut observer sur les bouteilles recyclées, c'est la même problématique. En soi, elle n'est pas gênante au niveau scientifique. Peut-être que ça... contribue aussi un peu à absorber, donc au niveau des propriétés de soufflage, ça va avoir une influence. Mais par contre, aussi, avoir des bouteilles jaunes pour de l'eau qui est censée être pure, ça peut influencer aussi peut-être.
Ça donne moins envie, c'est important quand même.
Consommateur, voilà.
Du coup, tu disais que ça doit garder cette transparence et ne pas dégrader les propriétés mécaniques. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, tu disais, que tu as pu observer ?
Après, c'est au niveau des propriétés mécaniques. Alors là, c'est assez subtil dans ce qu'on observe, mais on observe que le PET recyclé va rigidifier plus tard, pour des déformations plus importantes. Donc là, c'est quelque chose qu'on est en train encore de chercher un peu à comprendre. Et parce que ça, a priori, les contaminants ne pourraient pas non plus expliquer ça. Donc, notre hypothèse la plus plausible, c'est celle des masses molaires. Donc, la longueur des chaînes de nos polymères, qui peuvent donc peut-être expliquer ces différences de comportement.
Comment est-ce que du coup, est-ce que tu peux me résumer, comment est-ce que tes travaux vont pouvoir être en fait utilisés par les industriels ?
Alors, sur la partie contamination... c'est intéressant de se dire qu'effectivement, ce n'est pas un problème en soi. Mais par contre, comme on a pu regarder d'autres propriétés effectivement sur les recyclés, c'est là-dessus, je pense, que ça peut être intéressant. Donc, les propriétés au niveau de la gamme de formage, donc, comme j'en ai parlé, et également sur donc le soufflage. Voir effectivement qu'il a priori faut moins chauffer puisque ça absorbe plus. Après, il faut aussi plus chauffer pour atteindre les déformations qu'on souhaite. Mm-hmm. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut mettre en place au niveau après industriel.
C'est des paramètres à ajuster, finalement. Mm, d'accord. Quelles sont les prochaines étapes de ces travaux? Quelle est la suite, du coup, pour toi?
Alors, concrètement, dans le cadre de cette thèse, là, moi, j'étudie un peu plus vraiment sur les bouteilles, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de la microstructure. Voilà, après, ça s'arrêtera là au niveau de mes travaux. Et en revanche, ce qui pourra être intéressant, c'est de voir un peu plus qu'est-ce qui se passe au niveau des masses molaires. Qui pourrait expliquer peut-être un peu plus pourquoi il y a des explosions. Parce que pour l'instant, ça reste...
Oui, on ne sait tout, on ne sait pas forcément
d'où ça vient. Expliqué.
Il y a d'autres hypothèses que les masses molaires?
On n'en a pas encore identifié d'autres, mais peut-être qu'il va en venir à l'avenir.
Tu me disais en préparant l'épisode que tu as travaillé, toi, sur du PET d'origine de gisements différents. Mm. Il y avait peut-être aussi d'aller regarder sur d'autres types de gisements. Est-ce que tu peux peut-être dire un mot là-dessus?
Tout à fait. Alors, moi, j'ai travaillé sur un gisement qui était européen, un gisement africain, mais il existe... Donc, en fonction du pays, en fonction de l'entreprise qui a créé, qui a retransformé le PET pour en faire du PET recyclé, en fonction de la collecte, comment elle est faite, eh bien, on va effectivement avoir des gisements qui sont très différents. Donc ça sera aussi intéressant de voir, en fonction du gisement, qu'est-ce qu'il y a comme propriété intrinsèque au matériau. Donc effectivement, les masses molaires... Après, je ne sais pas trop les autres. Moi, j'avais regardé les contaminants, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on pourra regarder en fonction, effectivement, de l'endroit et du gisement, de regarder ces propriétés-là un peu plus largement pour avoir un panel qui permette de savoir un peu plus quels facteurs vraiment influencent plus le soufflage.
Est-ce que vous avez regardé, par exemple, la toxicité de ces contaminants?
Alors, en fait, nous, on n'a pas énormément pour analyser les contaminants en tant que tels. Après, moi, ce que je considère comme un contaminant dans ma thèse, c'est plutôt des macromolécules qu'on peut voir, en fait, des impuretés vraiment qui se voient soit à l'œil nu, soit en microscopie optique. Après, il y a d'autres contaminants qui sont dits plutôt volatiles et là qui nécessitent des appareils qu'on n'a pas ici, donc de la chromatographie gazeuse. Et donc là, les contaminants ont été analysés et après, ce qui a été regardé, c'est s'ils étaient répertoriés en fait dans ce qui pouvait être dangereux ou non. Et en l'occurrence, a priori, il n'y avait pas de danger, mais c'est ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est que ces contaminants-là, donc pas ceux que moi j'étudiais, donc plutôt sur tout ce qui est toxicité, sont des très petites molécules qui, en fait, peuvent diffuser effectivement dans le PET recyclé, mais vont aussi beaucoup disparaître lorsqu'on va le nettoyer. C'est l'avantage des petites
recyclage.
Molécules, c'est que ça part. Très bien, en fait.
Est-ce qu'il y a une fausse idée reçue que tu aimerais déconstruire dans ton domaine?
Alors oui, parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent « Moi, j'arrête de trier, et de toute manière, ça sert à rien, tout finit dans la même poubelle. » Alors non, tout ne finit pas dans les mêmes poubelles. Il y a quand même beaucoup qui sont collectés pour être ensuite effectivement recyclés. Donc, il faut continuer effectivement le recyclage. Donc, de faire effectivement la collecte, de faire le geste de tri, oui, c'est utile. Voilà, après, on peut faire effectivement de nouvelles bouteilles, de nouveaux objets. Donc, oui, c'est important pour l'économie des ressources et pour éviter effectivement que ces bouteilles soit se retrouvent incinérées dans le meilleur des cas ou en décharge dans le pire des cas et donc dans la nature aussi après.
Très bien, je pense que c'est un bon message de fin. Merci Lauriane.
Merci Laure.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Courant Porteur sur toutes les plateformes d'écoute ou sur le site de l'Institut Carnot Mines. Les liens d'écoute sont en description. À bientôt.